Bon, eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais, avant de vous présenter nos deux conférencières de ce soir, vous faire deux communications. La première, lors de la dernière conférence, a été évoqué le fait que vous pouviez les écouter sur via la radio de l'Université de Mons, qui s'appelle UFM. Je vous ai donné l'adresse internet ici au tableau, et lorsque vous allez sur le site de cette radio, à gauche dans la page, il y a un petit menu déroulant où vous voyez les émissions, vous cliquez dessus, là vous cliquez sur les conférences, et vous retrouverez les 3 années précédentes de nos conférences qui sont écoutables et téléchargeables. Et seront mises en ligne les 3 conférences de ce premier quadrimestre pour Noël. Donc, incessamment sous peu, après aujourd'hui, elles seront disponibles. De même, la fin du cycle de conférences de cette année sera mise en ligne lorsque le cycle sera terminé. Alors, pour l'instant, régulièrement, tous les dimanches matins, la radio rediffuse les anciennes conférences. Donc, vous pouvez également l'écouter le dimanche matin. Alors, je voulais aussi, avant de présenter nos conférencières, passer la parole à Christophe Dubois, qui va vous parler d'un événement en lien avec notre champ sur Mons. Christophe, je te passe la parole.
Alors, bonsoir. Je viens de vous voir quasiment toutes et tous individuellement. Donc, vous le savez sans doute, Jacques Lacan n'est pas mort. Et si vous n'en êtes pas convaincu, l'association de la cause freudienne vous invite le 7 janvier prochain pour un événement autour de la rentrée lacanienne qui s'intitule donc Lacan vivant, dans lequel, auquel interviendront différentes personnes en tant que psychanalyste, en tant qu'analysant, qu'enseignant, intervenant dans le secteur médico-social. Pour nous faire part de comment est-ce que Lacan vit toujours chez eux, en tant que travailleur, en tant que canalisant, en tant que lecteur. Et l'idée est de pouvoir en discuter, et d'en discuter avec un public qu'on espère nombreux. Et donc j'espère aussi que nous pourrons voir pas mal de personnes parmi vous pour venir échanger aussi de comment Lacan vit chez vous en tant que lecteur ou en tant que travailleur ou selon vos qualités respectives. Et donc ça se fait le 7 janvier prochain à 15h à la Maison Folie qui est ici à Mons sur le boulevard. Bienvenue à tous.
Merci beaucoup pour cette annonce, Christophe. Voilà, alors ce soir, nous écouterons Véronique Mariage qui va nous parler du laisser-tomber de la jeune homosexuelle que vous trouvez dans le séminaire à la séance 8. Et interviendra ensuite Monique Kusnirek qui nous parlera du symptôme dans sa nature, dans le fait que le symptôme dans sa nature est jouissance. Et ça, c'est la séance 9 du séminaire. Alors, Véronique Mariage, qui est à ma droite, est psychanalyste à Tournai. Elle est également directrice thérapeutique au Courtil, cette institution dont vous avez déjà entendu souvent parler, qui se situe également à Tournai et à l'Ers-Nord. Et Monique Kusnirek, qui est à ma gauche, est psychanalyste à Braine-le-Comte et Bruxelles. Elle est enseignante à la section clinique de Bruxelles et toutes deux sont membres de l'école de la cause freudienne. Voilà, alors Véronique, je vais vous céder la parole. Voilà, c'est en ordre. Je vous laisse la parole.
Voilà, j'espère que... Oui, sûrement qu'on m'entend, mais il me semble que ma voix est encore plus enrouée. Ça ne fonctionne pas bien, non?
Non, c'est très
j'ai un peu de problème de... Grippo. Alors voilà, donc je dois parler ce soir. Voilà, on m'a demandé de reprendre ce cas du laisser tomber de la jeune homosexuelle. Je me suis d'abord demandé, en somme, pourquoi Lacan voulait en parler dans cette séance 8 du séminaire à propos de l'angoisse. Alors, il souhaite en parler parce que c'est un cas clinique tout à fait intéressant, des rapports du sujet à l'angoisse, mais surtout des rapports du sujet à l'objet. À l'objet, vous savez qu'il l'a mis, donc l'objet A vient donc cette année au centre de tous ses propos, hein, et s'il s'inscrit dans le cadre du séminaire intitulé L'angoisse, eh bien c'est parce que c'est par ce biais de l'angoisse qu'il est possible d'en parler. Lacan dit, l'angoisse est sa seule traduction subjective. Donc c'est via l'angoisse que le sujet peut en traduire quelque chose. Excusez-moi, je risque de perdre un peu la voix. Très, très enrhumée. Bon. Alors, il dit pourtant cet objet A, eh bien, on l'a pourtant introduit depuis longtemps et annoncé dans la formule du fantasme. Vous connaissez sans doute, on en a déjà parlé dans les séances précédentes, dans le fantasme, où vit à le fantasme, le A est support du désir. Et vous savez que il est support du désir et il indique comment le sujet y a rapport à cet objet. Il y a rapport via cette petite fenêtre sur lequel on pourrait dire, d'ailleurs dans ce chapitre, le A apparaît sur le bord, il est sur le bord de quelque chose. Et je pense que c'est tout à fait intéressant, justement dans le cas de la jeune homosexuelle qui, elle, commet une tentative de suicide en passant par-dessus bord, en traversant quelque chose. Alors, Lacan rappelle trois points, et je ne vais pas les développer parce que je voudrais me centrer sur le cas en reprenant donc ce qu'est la jeune homosexuelle via Freud. Mais j'en donne quand même trois points concernant les abords de l'objet, où il en est dans le séminaire. C'est qu'on peut dire donc que l'objet est cause du désir, que se reconnaître, dit-il, comme objet de son désir, c'est toujours masochiste, c'est-à-dire c'est toujours être à la place de A, c'est incarner le moins-fi. Et troisièmement, il y a toute l'importance qu'à l'objet, d'un point de vue structural, comme manque dans son rapport au manque et dans son rapport à l'amour. Et donc, qu'est-ce que l'objet A, ce petit A, à quelle place est-il dans l'économie libidinale du sujet? Dans l'amour et pour le transfert, il faut que cet objet soit manquant au sujet. Il faut que le sujet puisse se poser la question de ce qui lui manque. Et c'est avec ce manque qu'il aime. Et il rappelle cette fameuse phrase, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. C'est le principe du complexe de castration. Mais pour avoir le phallus, pour pouvoir s'en servir, il faut justement ne pas l'être. Et c'est vraiment je dirais que ça, c'est central dans cette séance du séminaire, justement, c'est le cas de la jeune homosexuelle va montrer que quand on l'est, c'est problématique. En même temps, il y a une confusion entre être le phallus et être l'objet. Bon, ça c'est quelque chose comme ça qui s'articule entre les deux et en même temps qui se confond. Alors, quand on retourne aux conditions où il apparaît qu'on l'est, le phallus, quand on l'est aussi bien pour un homme, ça ne fait aucun doute, et pour une femme, nous redirons par quelle incidence elle est amenée à l'être. Eh bien, Lacan dit, c'est toujours fort dangereux. C'est étonnant parce que ce risque, justement, d'être le phallus pour une femme, combien c'est dangereux. C'est en tout cas ce que le cas de la jeune homosexuelle va nous montrer. Elle va d'ailleurs donc le mettre en acte. Et Lacan nous demande donc de relire le cas attentivement. Du cas, Lacan va se centrer donc sur l'essentiel, c'est-à-dire son passage à l'acte et sa position dans le transfert. La position de la jeune homosexuelle dans son rapport à l'objet. Alors, je repars du cas de Freud. Alors, la jeune homosexuelle, elle est amenée à Freud par ses parents. Elle a 18 ans et ils ont attendu 6 mois après un événement important et grave, un accident, pour s'adresser à Freud malgré la mauvaise réputation qu'a la psychanalyse à Vienne. Ils lui confièrent à Freud la tâche de ramener leur fille dans la norme. C'est-à-dire qu'elle puisse s'orienter à aimer un homme. Et ceci après donc une tentative de suicide. La jeune homosexuelle est donc une jeune fille de 18 ans, belle et intelligente, issue d'une famille socialement haut placée. Elle a suscité le déplaisir et le souci de ses parents par la tendresse avec laquelle elle poursuit une dame du monde de 10 ans plus âgée qu'elle, une cocotte, au dire des parents. Cette dame vit chez une amie mariée avec laquelle elle entretient des relations intimes, tandis que, en ce même temps, elle conserve des rapports amoureux épisodiques avec un certain nombre d'hommes. La jeune fille ne conteste pas ses racontars et reste tout en vénération pour la dame. Elle ne cache pas et ne s'empêche pas de montrer aux gens, aux yeux du monde, de tout le monde, de se retrouver avec elle. Tout cela l'accapare complètement. Elle arrête ses études, ne fait aucun cas de la vie en société et des distractions des filles de son âge. Seule, elle a des confidentes, qui sont des autres filles. Déjà auparavant, elle avait manifesté ce penchant pour d'autres femmes, ce qui avait déjà défié le père à l'époque. Elle n'avait aucun scrupule à se montrer avec sa dame, n'hésitait pas à mentir pour se retrouver avec elle. Un jour, le père rencontra sa fille dans la rue, en compagnie de cette dame, qu'il connaissait déjà de vue. Il les croisa toutes les deux en leur lançant un regard furieux. Immédiatement après, la jeune fille s'arracha du bras de sa compagne, enjamba un parapet et se précipita sur la voie du chemin de fer en contrebas, qui passait en contrebas. Cette tentative de suicide l'obligea à garder le lit une longue période, mais elle le sentira sans trop de séquelles, et après la guérison, elle trouva la situation plus conforme à ses désirs qu'auparavant. La situation s'est assouplie après ce passage à l'acte. C'est donc à ce moment que Freud la reçoit, donc après la tentative de suicide. Et Freud la reçoit à la demande de ses parents. D'emblée, la demande n'est donc pas du côté de la jeune fille, fait remarquer Freud, Et donc c'est une difficulté. La demande est du côté de ses parents. Ça embarrasse Freud. Répondre à l'amertume du père pour changer sa fille, de la faire passer de l'homosexualité à l'hétérosexualité. Freud dira d'emblée que ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible d'aboutir. Il dira donc qu'il évitait absolument de laisser espérer aux parents l'accomplissement de leurs désirs. Dans l'analyse, elle se mit au travail, mais va dans le sens d'accomplir les constructions de Freud. Et Freud, d'ailleurs, a une idée plus ou moins suffisante du développement suivi par l'homosexualité et l'inversion de sa patiente. Mais jusqu'où la jeune fille était allée dans la satisfaction de sa passion ? Le plaisir qu'elle avait pris avec ses objets n'avait jamais été plus loin que quelques baisers et étreintes et manifestait une certaine chasteté génitale. De plus, la dame était restée froide envers elle. Elle ne cessait d'insister sur la pureté de son amour et sur son aversion physique à l'égard d'un commerce sexuel. La dame tentait de la décourager, de poursuivre dans son inclination. Lacan dira, donc, vis-à-vis de l'objet d'amour, elle avait totalement adopté le type masculin. Humilité de l'homme amoureux, son empathique surestimation sexuelle, ainsi que le renoncement à toute satisfaction narcissique, et la préférence accordée au fait d'aimer plutôt que celui d'être aimé, eh bien, la position masculine. Elle avait donc non seulement choisi un objet féminin, mais avait pris à son égard une position masculine. Elle se comporte donc d'une façon essentiellement virile. On peut y voir là la fonction de l'amour courtois. Elle se comporte comme le chevalier qui souffre tout pour sa dame, se contente du moins et préfère n'avoir que cela. Plus l'objet d'amour va vers la récompense, plus elle surestime cet objet d'éminente dignité. Quand la rumeur ne peut manquer de lui imposer que la conduite de sa bien-aimée est des plus douteux, l'exaltation de son amour ne fait que se renforcer jusqu'à vouloir la sauver. Ainsi, dans cette position, elle est toute phallique. Elle est le phallus qu'elle exhibe sur la scène. Et c'est là que, dit Lacan, c'est toujours dangereux. Que va dévoiler l'analyse ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que Freud dit qu'elle n'était pas névrosée. Elle n'a jamais apporté à l'analyse un symptôme hystérique, par exemple, qui aurait pu être l'occasion de creuser l'histoire de son enfance. Son histoire libidinale était parsemée de quelques petits faits. Donc, par exemple, elle était passée par la position normale de l'Œdipe féminin. Elle avait pu substituer à son père son frère, un peu plus âgé qu'elle. Deuxièmement, la comparaison à l'âge de 5 ans des organes génitaux avec ceux de son frère aîné lui avait laissé une forte impression. Encore, très peu d'indications furent livrées sur l'onanisme de la petite enfance. La naissance du second frère ne laisse aucune trace. À la période prépubertaire, elle prit connaissance de la vie sexuelle et elle en manifesta une certaine aversion. Normale, dit Freud. À 13-14 ans, elle se prend de tendresse pour un petit garçon qui se transforme en amitié pour ses parents. Elle montre le désir d'être mère, puis ensuite pour les femmes d'âge mûr, qui sont des mères d'abord. Elle a environ 16 ans. C'est à ce moment-là que naît un petit frère. Un dernier enfant, donc, de cette famille où elle en avait déjà deux. C'est à ce moment que surgit son homosexualité. L'analyse révéla sans ambiguïté, dit Freud, que la dame aimée était un substitut de la mère, qui, elle, n'était pas mère, mais aussi pour une autre raison, pour sa silhouette élancée, la beauté sévère et les manières rudes lui faisaient penser à son frère aîné, donc l'attitude de la dame. L'objet choisi n'était pas seulement son idéal féminin, mais aussi, dit Freud, son idéal masculin. Alors, pourquoi, en somme, se substitue-t-elle à la mère ? Pourquoi un substitut de la mère ? Pas spécialement à cause de son désir d'avoir un enfant de son père, et fait à l'image de ce dernier un garçon. Ce n'est pas elle qui eut l'enfant, mais sa mère. Et c'est là qu'elle se mit à la haïr. Indignée, elle se détourne, dit Freud, du père et de l'homme en général. Elle rejette sa féminité et sa libido trouve un autre placement. Alors, il y a cette petite remarque de Freud. Elle se conduit, en somme, comme beaucoup d'hommes, qui, après une expérience amoureuse malheureuse, rompent une bonne fois avec l'inconstant sexe féminin, dit Freud, et deviennent misogynes. C'est une remarque un peu étonnante. Par conséquent, après cette déception, elle avait donc repoussé loin d'elle le désir d'avoir un enfant, l'amour pour l'homme et le rôle féminin. Elle se changea en homme et prit la mère à la place du père comme objet d'amour. Ça, c'est la construction de Freud. Et comme il n'y avait pas grand-chose à faire avec sa mère, elle la transposa sur une autre femme, sur un substitut de celle-ci, sur la dame. Cela encore fut consolidé quand la jeune fille remarqua combien la chose était désagréable à son père. Elle demeurait homosexuelle pour défier le père et le tromper par la moindre occasion. Voilà où elle en est avant son passage à l'acte, sa tentative de suicide. Elle est le phallus là, l'incarne, le montre sur la scène, parce qu'elle ne l'a pas, l'enfant du père. Cet édifice est extrêmement fragile, mais il aurait pu tenir. Mais que s'est-il passé entre elle, la dame et le père, pour qu'elle passe à l'acte et enjambe le parapet et se laisse tomber dans le vide? Donc cet édifice qui était là en place cette passion pour la dame, c'est un édifice qui est tout sur le point de s'effondrer, très fragile. Que se passe-t-il donc lors de la tentative de suicide? Il faudra l'analyse pour en savoir un petit bout sur ce qui s'est passé entre elle et la dame. On a d'emblée le regard du père, ça s'est amené d'emblée dès que Freud rencontre cette jeune fille avec ses parents. Le père raconte qu'il les a regardées, elle a passé la jambe au-dessus du parapet et s'est jetée dans le vide. En somme, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, la dame et elle? Donc le père les croise et accompagne. Elle est accompagnée de la dame. Et il jette un regard furieux à sa fille et à sa compagne. Elle avoue alors à la dame, voilà, c'est ça qui est important, elle avoue alors à la dame que ce monsieur est son père et qu'il ne voulait rien savoir de leur relation. La dame s'était alors emportée et lui avait ordonné de la quitter aussitôt, de ne plus jamais l'attendre, ni lui adresser la parole. Au désespoir de perdre sa bien-aimée, elle voulut donc se donner la mort. Pour Freud, l'analyse révéla deux autres significations de cet acte. Il dit « c'est un accomplissement d'autopunition, mais aussi un accomplissement de désir ». Elle signifiait la victoire du désir qui l'avait poussée à l'homosexualité, celui d'avoir un enfant du père. Elle tombait maintenant par la faute du père, par vengeance contre le père, destructeur de son amour, contre la mère qui, à sa place, avait eu un enfant. Le passage à l'acte manifeste donc le désir de mort dirigé sur l'auteur, se renverse contre elle-même. Sur autrui, se renverse contre elle-même. Lacan dira, à ce moment-là de plus, elle met bas, elle accouche, leader quand même. se laisser tomber est une analogie avec l'accouchement. Miba, on pourrait dire. Elle miba, passa le parapet et chuta. Tout à coup, le sujet est mis en relation, dit Lacan, avec ce qu'il est comme petit a. Et avec une rapidité fulgurante, passe par la fenêtre. Là, Lacan, dans son texte, note quand même quelque chose d'extrêmement proche du passage à l'acte mélancolique. En tout cas, il ne suffit pas de dire que le père a jeté un regard irrité pour comprendre le passage à l'acte. Il faut quelque chose en plus, dit-il, qui touche à la position structurale du sujet, dans le rapport à l'autre et à son manque. La jeune fille avait fait de sa dame le support de ce qui manque au champ de l'autre, ce qui incarne la conjonction de la loi et du désir du père, le phallus absolu. Donc sa dame représentait pour elle, soutenait pour elle le phallus absolu. C'est comme ça que le dit Lacan. Je ne sais pas ce que c'est que le phallus absolu. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent dans l'enseignement de Lacan. Quand il dit phallus absolu, est-ce que c'est le phallus qui... incarné, réel, absolu, complet, pas décomplété, enfin je ne... Bon. Puisqu'elle a été déçue par le père, eh bien là, la femme, la dame, c'est elle la dame qui sera madame et je serai celui qui soutient ce rapport idéalisé. Donc il y a quelque chose dans cette relation à cette dame de complètement, de complet, de complètement idéalisé, idéalisé sur ce qui, à partir de ce qui lui manque, à partir de son insuffisance de femme, sa castration. Voilà, dit Lacan, ce qui apparaît sur la scène, sur le pont. Ainsi, deux conditions sont réalisées pour que le passage à l'acte soit réalisé. Il y a d'abord une identification absolue du sujet à l'objet, au petit a, à quoi il se réduit. C'est ce qui se produit lors de la rencontre avec le père. Alors bien sûr, on peut se poser la question de... Dans la rencontre du repère, c'est un regard. Et donc elle est pure... Elle devient pur objet du regard du père. Sauf que Lacan ne va pas relever... la question de l'objet dans le rapport au regard, il ne l'a pas encore construit dans ce moment-là du séminaire. Et deuxièmement, donc dans les conditions du passage à l'acte, il y a une confrontation du désir du père sur lequel tout dans sa conduite est construit avec la loi qui se présentifie dans le regard du père. C'est-à-dire, le regard du père présentifie la loi qui serait... une femme doit aimer un homme. Une femme ne peut pas aimer une autre femme. Dans ce regard se présentifie ça, et c'est par quoi elle se sent définitivement identifiée comme petit a. Et du même coup, rejetée, déjetée, hors scène. Puisqu'elle ne peut pas réaliser cette loi du père. Elle en est le déchet. Seul le laisser tomber, le se laisser tomber peut le réaliser. Tout tourne dans cette analyse, donc, du rapport du sujet au petit a. Alors, il faut savoir que cette analyse, il y a des remarques, je ne vais pas les reprendre, je vais laisser la parole à Monique, mais dans cette analyse... des remarques de Freud sur le rapport de cette jeune fille à Freud dans le transfert. Et il faut savoir que cette analyse ne durera pas longtemps et Freud la laissera tomber. Et il la laissera tomber avec l'idée que et la renverra à un analyste féminin. Freud dira Lacan, Freud achoppe donc sur la question de la féminité, comme d'ailleurs pour Dora, il y avait achoppé. Que veut la femme ? Il voudrait en savoir tout, dit Lacan. Qu'elle lui dise tout, la femme. Alors, dans la position transférentielle, il y a par exemple Freud qui remarque qu'en somme, toutes les interprétations, il y a quelque chose de particulier avec cette jeune fille, c'est que toutes les interprétations, toutes les constructions qu'il fait, elle est toujours d'accord. Il dit, eh bien, on a l'impression que toute parole, tout glissait comme de l'eau sur des plumes de canard. C'est-à-dire que quelque chose comme ça ne divisait pas le sujet. C'est quand même surprenant dans cette remarque de Freud. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Monique. On pourra revenir sur le cas bien après dans la discussion. Voilà.
Donc, alors, on m'a proposé de commenter une phrase du chapitre 9 du séminaire sur l'angoisse. Et cette phrase, c'est « Le symptôme dans sa nature est jouissance ». Alors, Lacan dit cela quasi à la fin du chapitre 9. Il dit aussi d'autres petites choses sur le symptôme à cet endroit-là. Mais ce qu'il dit du symptôme à la fin de ce chapitre 9, c'est plutôt... au cœur du chapitre 9, une incise. C'est une incise importante, mais c'est une incise. Ce n'est pas comme tel l'objet du chapitre 9. Alors, par ailleurs, pour saisir ce qu'il dit du symptôme à cet endroit-là, il faut essayer de saisir quelle est la logique de ce chapitre. Et c'est à partir de la logique de ce chapitre qu'on entre un peu dans ce qu'il dit à propos du symptôme. Alors, j'ai donc essayé de saisir quelle était la logique de ce chapitre. Je dois vous dire que j'ai cherché longtemps. Je n'ai pas trouvé ça tout de suite. J'ai même trouvé ça hier soir. Ça m'était apparu d'une certaine façon avant, mais je suis arrivée à le formuler hier soir, un peu tard. Mais enfin, c'est mieux que jamais. Alors, donc, je pense que la logique de ce chapitre, je dois vous dire que Jacques Alain Miller commente ce chapitre, ainsi que l'ensemble du séminaire de l'angoisse, dans son cours de 2004. Et que ce chapitre 9, il en est question dans son cours du 16 juin 2004. Ça m'a aidé d'ailleurs à saisir la logique du chapitre, la lecture du cours de Jacques Alain Miller. Donc, je pense que la logique de ce chapitre, c'est de distinguer deux champs. Deux champs que là, je vais beaucoup écrire au tableau. Le champ que Lacan épingle notamment comme la scène d'une part et le monde d'autre part. Alors je pense que cette distinction, il la reprend à Lévi-Strauss. Alors, du côté de la scène sur laquelle on monte, et où l'on montre, il place les catégories du symbolique et de l'imaginaire. du côté du monde, c'est là où le réel se presse, dit-il. Alors, cette bipartition se retrouve dans le titre même du chapitre. C'est mieux de parler dans l'autre ? Cette bipartition se retrouve dans le titre même du chapitre qui est le suivant, passage à l'acte et acting out. C'est-à-dire qu'on va mettre l'acting out du côté de la scène et le passage à l'acte du côté du réel. Alors, quand on prend le chapitre par cette logique de la bipartition, on peut enfiler toute une série de choses du chapitre. Je ne vais pas parler toutes les choses qu'il y a dans le chapitre parce que ce serait trop long, mais enfin, on peut enfiler toute une série de choses. D'abord, le schéma de la division, qui est à la première page du chapitre. Alors, Lacan, dans ce schéma de la division, je trouve qu'il n'est pas clair, ce schéma. Je vais essayer de dire ça. Donc, le schéma de la division, c'est celui où l'autre est divisé par le sujet, qui est un sujet d'avant le sujet, au fond, le sujet originaire, et cela produit, dit-il, du sujet barré et de l'autre barré. Je vais revenir là-dessus, parce que jusqu'ici, c'est pas clair. Alors, ce qui ne me semble pas clair dans le chapitre, dans ce schéma de la division, c'est qu'il place A de ce côté-là. Enfin, qu'il le place là, peu importe. Mais je trouve que c'est beaucoup plus clair de placer A de ce côté-là, à partir de ma bipartition. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en essayant de reprendre ça à partir du schéma des opérations de causation du sujet, que sont les opérations d'aliénation et de séparation dans le séminaire suivant, qui est le séminaire 11. Alors, Jacques Alain Miller dit d'ailleurs que ce schéma de la division du sujet, donc ceci ici, ce schéma de la division du sujet, c'est une première écriture des opérations de d'aliénation et de séparation. Alors, prenons l'opération d'aliénation. Je vais dire ça de manière brève, je ne vais pas entrer dans le détail du truc parce que là on n'en a pas encore fini. Hein. Donc l'aliénation. Lacan dit dans le séminaire 11 et dans le texte Position de l'inconscient que tout d'abord, avant tout, il y a l'autre, c'est-à-dire la batterie des signifiants. Tout d'abord, il y a l'autre. Alors, le sujet, lui, avant qu'il ne soit conçu même, il n'existe pas encore. C'est rien du tout le sujet. Alors, quand il est, disons, dans le ventre de sa maman, on peut dire un certain nombre de choses de ce sujet. On dira, par exemple, il va s'appeler Anne. Hein? Alors, quand on dit qu'il va s'appeler Anne, on épingle le sujet à partir d'un signifiant qui est S1. Et ce signifiant S1, il indique au sujet, avant le sujet était un rien du tout, maintenant c'est un rien du tout là. C'est facile à comprendre. Par exemple, vous avez la chambre de Anne, on met Anne sur le nom de Anne sur la porte de la chambre, même qu'elle n'est pas encore là. C'est-à-dire que c'est un rien du tout, mais là, à sa place. Et Anne ne parle pas encore et ne donne pas encore son avis. Alors, une fois que le sujet est né et qu'il décide de commencer à parler, tous les sujets ne décident pas de commencer à parler. Une fois qu'il est né et qu'il décide de commencer à parler, il va chercher à savoir ce que ça veut dire, ce qu'il est, ce que ça veut dire dans l'autre. Alors, il va articuler à S1, S2. Et donc, on dira de Anne, elle est grande pour son âge. Mais ça, ça ne dit pas encore ce que c'est Anne. Et donc, de S2, il va filer vers R3, vers S3, pour essayer d'en dire plus, et puis vers S4, etc. C'est-à-dire qu'à parler, et à se mettre à parler, et à chercher le sens des choses, et ce que ça veut dire, eh bien, on tombe sur ce que Lacan appelle une fuite du sens, un trou dans le sens. Il n'y a pas dans l'autre le signifiant qui dirait une fois pour toutes ce que c'est ce sujet. On tombe donc sur S barré. Alors, ce S barré, je vous rappelle, on tombe sur S barré, un trou dans l'autre, et cette articulation de S1 à S2 produit ce que Lacan appelle du sujet barré. Alors, le sujet barré, c'est précisément cet effet, ce qui ne parvient pas à trouver dans l'autre son signifiant, le signifiant qui le dirait une fois pour toutes. C'est un manque à être. Il n'y a pas le signifiant qui dit ce qu'il est. C'est un manque à être. Alors ça, c'est ce sujet barré est le pur produit d'une articulation signifiante. Et c'est dans l'opération de la division ce que Lacan écrit à la page 135 notamment. Donc A. Du côté gauche, on a d'abord l'autre, par lequel on divise l'autre par le sujet hypothétique, et ça produit du S barré et du A barré. Bon. Ça, c'est l'opération d'aliénation, qui est une opération d'aliénation au sens du séminaire 11. Alors, à côté de ça, dans le séminaire 11, Lacan distingue l'opération de séparation. Alors là, avec l'opération de séparation, le sujet ne s'intéresse plus à ce que ça veut dire, il ne s'intéresse plus au sens, mais il s'intéresse à ce qui échappe au sens. Au reste de la division, au fond, ce qui échappe au sens, comment vous dire ça? Dans l'opération de la division, donc admettons, on a une division arithmétique, admettons qu'on ait 23 au niveau de l'autre, et puis le sujet, on dira que c'est 7, on divise 23 par 7, ça fait 3. Donc il reste 2. Eh bien, il s'intéresse au reste, c'est-à-dire à ce qui ne participe pas de la division de l'autre par le sujet. Qu'est-ce qui reste et qui ne relève pas de l'articulation signifiante? Eh bien, c'est qu'est-ce qui manque, donc qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui chute de cette opération, eh bien, c'est là qu'il va parler de l'objet petit a comme étant ce reste réel antérieur à l'incidence de l'articulation signifiante. Et ce reste réel, il va en faire un organe perdu, un organe chu, une séparation anatomique antérieure à l'opération, à l'incidence de l'autre, de l'articulation signifiante. Alors, ce modèle de l'organe chu, il dira par exemple que c'est le sein qui appartient à l'organisme de l'enfant, qui empiète bien sûr sur le corps de la mère, mais qui appartient à l'organisme de l'enfant, et que l'enfant perd lors du sevrage. Il dira la même chose à la page, je ne sais plus combien, à la page... Dans le chapitre 9, il dira la même chose à propos de la séparation de la naissance, où l'enfant se sépare de ses enveloppes embryonnaires. Donc l'objet petit a, c'est ce qui reste de l'opération signifiante et de son effet de signification, ce qui reste et qui ne procède pas de ça, qui n'est pas résorbé par l'opération signifiante. C'est un reste anatomique, un objet chu, une perte d'un bout de chair tombé, chu, hétérogène au signifiant, qui n'est pas signifiant, et donc qui est réel. C'est pour ça que l'objet petit a, il faut le mettre de ce côté-là, du côté où se presse le réel. Alors, bien sûr, les objets petit a, des petits a, la série des objets petit a, Saint, Fès, Regard, Voix, ne sont bien sûrs que des représentants de cet organe réel su. Remarquez que dans le séminaire 11, c'est exactement la même chose. L'objet petit a est aussi un organe réel su au départ. C'est ce que Lacan appelle dans ce séminaire-là la lamelle. Bon, je passe là-dessus. Si ça vous intéresse, on y reviendra. Alors, donc cet objet petit a, c'est un organe perdu, tombé, su, qui donne corps à la jouissance. L'articulation signifiante produisait du sujet barré, du manque à être et du désir. L'objet petit a donne corps à la jouissance du corps vivant. Le manque à être, c'est une mortification. Ici, on a affaire à la jouissance du corps vivant, à la jouissance du corps propre autistique. Et c'est également cette opération. Si Lacan, dans le séminaire 11, appelle ça l'opération de séparation, c'est parce que c'est une séparation d'avec le sens et une sorte de branchement, plutôt que sur une recherche du sens et de ce que ça veut dire, sur la jouissance. Alors, ce qui est important de comprendre pour saisir la suite de ce chapitre-là, c'est que lorsqu'on est du côté que j'ai mis à gauche, du côté de l'articulation signifiante, on a affaire non seulement au sens qui manque et au sens qui fuit, on a affaire à une fuite de sens, mais on a affaire à toutes les équivocités signifiantes. On a affaire à la vérité qui a structure de fiction. On a affaire aux signifiants et à ces malentendus, à ces tromperies. On est dans un monde de semblants. On est dans un monde de semblants et de fiction par rapport au côté droit, enfin que j'ai mis à droite, où là, on a affaire au réel et à ce qui ne trompe pas. Cette opération de la division de l'autre par le sujet, ou la double opération d'aliénation et de séparation, produit donc l'articulation symbolique avec son manque à être et la jouissance avec l'objet petit a. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que du côté de la scène, on n'a pas seulement la scène du sujet historisé, mais on a aussi l'imaginaire, la scène imaginaire. Alors il faut essayer, je me suis un peu cassé la tête pour essayer de comprendre pourquoi l'imaginaire vient du côté de la scène par opposition au réel. L'imaginaire est articulé au symbolique du côté de la scène, de la fiction, du semblant, par rapport au réel. Alors, ce n'est pas la première fois que Lacan situe l'imaginaire et symbolique par opposition au réel. Il a déjà fait ça dans le séminaire 7, où le symbolique et l'imaginaire en tant que semblant constitue une défense, une barrière contre le réel qui est un grand trou, la chose dans laquelle on pourrait tomber. Le semblant constitué d'imaginaire et de symbolique constitue une défense par rapport au réel. Alors, ce que fait valoir Jacques Alain Miller, par ailleurs, donc c'est pas la première fois que ça arrive. Ce que fait par ailleurs valoir Jacques Alain Miller, c'est que on a une nouvelle approche de la dimension, de la relation imaginaire dans le séminaire sur l'angoisse. L'imaginaire, avant le séminaire sur l'angoisse, c'est une relation entre moi et mon semblable. Entre moi et mon semblable, ou entre moi et mon image dans le miroir. Et la libido, dans cette relation imaginaire, circule entre moi et mon semblable. Tantôt c'est moi qui jouis de me voir si beau dans le miroir, tantôt c'est l'autre qui me ravit ce qui me revient, comme le puiné de l'enfant, comme ce que raconte Saint Augustin avec l'enfant qui pâlit de jalousie parce que son puiné tête le sein et lui dérobe donc la satisfaction qui lui revenait. C'est-à-dire que quand on appréhende la circulation de la jouissance à partir sur l'axe imaginaire entre moi et mon semblable, la jouissance circule en vase clos, elle passe de l'un à l'autre. Alors, ce que fait valoir Jacques-Alain Miller, je trouve que c'est extrêmement précieux parce que c'est pas facile à saisir tout seul dans le séminaire sur l'angoisse, c'est que Lacan rebaptise la relation imaginaire à partir du schéma optique. Et dans le schéma optique, il y a quelque chose de plus. C'est que Lacan fait valoir, je ne vais pas reprendre ce schéma optique qui est très compliqué, c'est que, au fond, le moi, il l'écrit, enfin, le moi idéal, il écrit ça petit i de A. Il écrit ça petit i de A. Et donc, petit i de A se mire dans le miroir. On va mettre ça en symétrie, petit a prime. Donc là, il y a quelque chose qui se spécularise. Mais, dit-il, il y a quelque chose qui ne passe pas au spéculaire, qui reste invisible. Et ce qui reste invisible, c'est justement l'objet petit a. Ça ne passe pas au miroir, c'est invisible. Alors, on comprend déjà là beaucoup mieux pourquoi on met l'imaginaire du côté de la scène. On le met du côté de la scène parce que précisément petit a reste voilé. Il ne passe pas. Si petit a passe, alors on vire au réel. D'accord ? Alors, donc voilà. Pourquoi on met l'imaginaire du côté de la scène? Il y a encore d'autres réponses possibles. Il y en a une, par exemple, à la page, dans le séminaire, dans le chapitre 9, à la page 142. Une autre. Il dit que, on va prendre la page 142, bon, il parle donc de l'expérience du miroir, du moment où l'enfant découvre son image dans le miroir. Il dit, il suffit de se référer à ce moment que j'ai marqué comme caractéristique de l'expérience du miroir et pas paradigmatique de la constitution du moi idéal dans l'espace de l'autre. Donc on a là une articulation du miroir et de l'espace de l'autre avec un grand A, donc du symbolique. C'est ce moment-là. Cette articulation, elle tient à ceci. C'est le moment où l'enfant retourne la tête. Il a vu sa belle image toute une dans le miroir. Et il retourne la tête, selon ce mouvement familier que je vous ai décrit, vers cet autre, grand A, ce témoin, cet adulte qui est derrière lui, pour lui communiquer par son sourire les manifestations de sa jubilation. C'est-à-dire que pour entériner la satisfaction qui tient à la perception de son image dans le miroir, il faut l'aval de l'autre. Donc articulation entre l'autre et la constitution, l'autre symbolique et la constitution de l'image spéculaire. Alors il poursuit. Si la relation qui s'établit à l'image spéculaire est telle, c'est important ça, si la relation qui s'établit à l'image spéculaire est telle que le sujet est trop captif de l'image pour que ce mouvement soit possible, c'est que la relation duelle pure le dépossède de sa relation au grand autre. Et il parle alors du sentiment de dépossession et du hors-là. Alors, il faut donc une articulation entre le grand autre et l'image que je découvre dans le miroir pour qu'il n'y ait pas de sentiment de dépossession. Quand il y a un sentiment de dépossession de l'image spéculaire, Alors, on vire, vous allez le voir, du côté du monde. Alors, je vais reprendre l'heure là, certains passages. Alors, l'heure là, donc, c'est un texte de Maupassant, et c'est quelqu'un, donc un homme, qui se trouve chez lui et qui pense qu'il y a une présence qui hante sa demeure. Alors, je vais lire quelques passages. Alors, donc, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord. Puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par la fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis, oui, je vis, messieurs, de mes yeux, une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilletée. Mon fauteuil, là où le livre se trouvait, j'imagine, mon fauteuil semblait vide. Non, mon fauteuil semblait vide, voilà. Mais je compris qu'il était là, lui, donc la présence. Je traversais ma chambre d'un bond pour le prendre, pour le toucher, pour le saisir, si cela se pouvait. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma lampe aussi tomba et s'éteignit, le verre brisé, et ma fenêtre brusquement poussée comme si un malfaiteur l'eût saisie en se sauvant à la frapper sur son arrêt. Je me jetai sur la sonnette et j'appelai. Quand mon valet de chambre apparut, je lui dis : j'ai tout renversé et tout brisé. Donnez-moi de la lumière. Je ne dormis plus cette nuit-là. Et cependant, j'avais pu encore être le jouet d'une illusion. Au réveil, les sens demeurent troubles. N'était-ce pas moi qui avais jeté bas mon fauteuil et ma lumière en me précipitant comme un fou ? Non, ce n'était pas moi. Je le savais, à n'en point douter une seconde. Et cependant, je voulais le croire. Attendez, l'être, comment le nommerais-je ? L'invisible ? Ce qui ne se voit pas dans le miroir. L'invisible ? Non, cela ne suffit pas. Je l'ai baptisé le hors-là. Pourquoi ? Je ne sais point. Donc l'or-là ne me quittait plus guère. J'avais jour et nuit la sensation, la certitude de la présence de cet insaisissable voisin et la certitude aussi qu'il prenait ma vie heure par heure, minute par minute. L'impossibilité de le voir m'exaspérait et j'allumais toutes les lumières de mon appartement comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. Je le vis enfin. Vous ne me croyez pas ? Je l'ai vu cependant. J'étais assis devant un livre quelconque, ne lisant pas, mais guettant avec tous mes organes surexcités, guettant celui que je sentais près de moi. Certes, il était là, mais où ? Que faisait-il ? Comment l'atteindre ? En face de moi, mon lit. Un vieux lit de chêne à colonne. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte que j'avais fermée avec soin. Derrière moi, une très grande armoire à glace, un miroir donc, qui me servait chaque jour pour me raser, m'habiller, où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant de lire. Pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour. Et je ne me vis pas dans ma glace. Il ne voit pas son image dans le miroir. Elle était vide, la glace, donc, claire, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans. Et j'étais en face. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, sentant bien qu'il se trouvait entre nous, c'est-à-dire entre lui et son image dans le miroir, sentant bien que, donc, que le Orla se trouvait entre nous, lui, et qu'il m'échappait encore, mais que son corps imperceptible avait absorbé mon reflet. Le Orla se trouvait entre lui et son image et le dépossédait de son image dans le miroir. Alors, pour ne pas être dépossédé de son image dans le miroir, il faut, dit Lacan, que l'image que je reconnais dans le miroir soit articulée à l'autre, soit avalisée par l'autre. Sinon, ça crée des phénomènes de dépossession. Il est dépossédé de son image et ce qui lui revient sous forme, disons, hallucinatoire, c'est cet être étrange qui réapparaît dans le réel. C'est une hallucination. Une hallucination au-delà du miroir. Ce qui était invisible dans le miroir fait retour dans le réel et réapparaît dans le réel. Tout à l'heure, je disais que l'objet petit a, dans le schéma optique, est invisible. Il ne passe pas à l'image. Il ne passe pas dans le champ visuel. Quand il passe, la relation spéculaire saute et il réapparaît dans le réel. Et c'est l'angoisse. Donc, symbolique et imaginaire sont articulés pour que l'image spéculaire tienne. Il y a encore une troisième chose que j'ai trouvée, ou une quatrième, je ne sais plus, pour rendre compte de cette articulation nécessaire du symbolique et de l'imaginaire. Ce que dit Lacan, c'est que le champ visuel permet donc la constitution de l'image du corps propre, mais il permet aussi ce champ visuel. C'est de là que procède également la constitution de la perception de la réalité objective. La réalité objective, c'est en rapport avec le symbolique, bien sûr. Alors, ce terme-là, cette idée-là, on la retrouve, par exemple, dans une note de la question préliminaire. Une note ajoutée bien après l'écriture de la question préliminaire, ajoutée au moment de la parution des écrits, je crois. Et cette note est la suivante. Le champ de la réalité, le champ de la perception, donc, ne se soutient de la réalité objective. Le champ de la réalité ne se soutient que de l'extraction de l'objet petit a qui pourtant lui donne son cadre. Il est beaucoup question dans la question préliminaire du champ de la perception. Pour que l'on puisse percevoir correctement la réalité, il faut que l'objet petit a en soit exclu. Concernant le champ visuel, il faut que le regard soit exclu pour pouvoir percevoir clairement la réalité objective. C'est facile à comprendre. Il y a un exemple chez Freud qui dit cela. Je ne sais plus où ça se trouve, dans Freud. Eh bien, c'est l'exemple suivant. C'est l'histoire d'un voyageur dans le train. Il se lève, il se trouve d'un côté du wagon, là, et puis il s'avance vers l'autre côté du wagon. Et tout à coup, il voit quelqu'un arriver vers lui, qui lui fonce dessus, au fond, jusqu'à ce qu'il se rende compte, en fait, que c'est son image dans le miroir de la vitre de la porte en face qui venait vers lui. Il ne percevait pas correctement la réalité. Il avait l'idée que ça lui revenait. Alors, j'ai un petit exemple personnel qui est, je trouve, encore plus parlant. Il y a un certain nombre d'années, le local de l'ACF se trouvait encore à la porte de Namur. Et après une soirée, réunion, on est allé prendre un verre à quelques-uns dans une brasserie, là, le long de l'avenue de la Toison d'Or. Et alors, cette brasserie, à un certain moment, je suis allée aux toilettes, et donc je suis entrée dans les toilettes. Alors, vous savez, les toilettes, c'est un petit endroit clos, bien fermé. Donc, j'entre dans cette toilette, et puis j'en sors, et au moment où je sors, il y avait quelqu'un dans la pièce. C'était extrêmement... C'est un moment d'inquiétante étrangeté, en fait. Comment ça se fait qu'il y avait quelqu'un qui était là? Un regard, en fait. Comment ça se fait qu'il y avait ce regard que je n'avais pas vu en arrivant? Jusqu'à ce que je me rende compte, en fait. Ça a duré quelques secondes, très longues, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que c'était mon reflet dans le miroir. Je n'avais pas aperçu la réalité, au fond. Pour percevoir la réalité, il faut que l'objet, petit a, le regard en l'occurrence, soit extrait du champ de la réalité, sinon on voit trouble. Bon, alors, poursuivons. Je sais plus où j'en suis. Alors, c'est donc sur cette répartition symbolique et imaginaire d'un côté et réel de l'autre côté qu'il va répartir l'acting out et le passage à l'acte. L'acting out, il le met du côté de la scène, ça monte sur la scène, et le passage à l'acte, il le met du côté du réel. Alors, ça va, le temps ? Alors, évidemment, il y a le passage à l'acte de la jeune homosexuelle dont Véronique vient de parler, que l'on situera, se laisser tomber par-dessus la balustrade, du côté de l'objet. Au fond, il y a chez la jeune homosexuelle une identification à l'objet qui chute. Alors, puisque Véronique en parlait, moi, je me suis plutôt intéressée à Dora. Je vais vous raconter ça brièvement. Donc, il y a aussi un passage à l'acte chez Dora. Dora, donc, participe à un groupe de 4 personnes constituées d'elle-même, de son père, de M. K et de Mme K. Il faut savoir dans l'histoire que le père de Dora est l'amant de Mme K, tandis que M. K fait la cour à Dora. Et Dora participe à tout ça, fait bon ménage avec tout ça, elle supporte les assiduités de M. K et elle s'arrange pour que son père puisse rencontrer Mme K en gardant les enfants de Mme K. Tout ça se passe très bien, sans le moindre problème, jusqu'au jour où M. K dit à Dora: ma femme n'est rien pour moi. Alors, elle le gifle. C'est ça, le passage à l'acte, dit Lacan. Elle le gifle. Et à partir de là, au lieu de participer à tout ce petit montage, eh bien, elle commence, ça, c'est un mot, une expression de Lacan dans le séminaire 3 ou 4, elle commence à paranoïser. Elle se dit, eh bien, mon père me vend à M. K en échange de Mme K. Je ne suis qu'un objet d'échange. Là aussi, identification à l'objet, pur objet de jouissance qui circule. Et à ce moment-là, elle menace aussi de se suicider, Dora. Et c'est alors que son père l'amène chez Freud. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, je trouve, c'est d'essayer de saisir ce qui s'est passé lorsque M. K lui a dit « ma femme n'est rien pour moi ». Alors, l'analyse, bon, Freud a longtemps pensé que l'objet du désir de Dora, c'était Monsieur K. Il a découvert un peu tardivement, au fond, que l'objet de son adoration, c'était au contraire Madame K. Freud s'est trompé, dit Lacan, parce qu'il dit ça dans le séminaire 3. Freud s'est trompé parce qu'il s'est posé la question de savoir quel est l'objet du désir de Dora. Il aurait mieux fait de se poser la question de savoir qui désire chez Dora. Et alors, si c'était posé la question de savoir qui désire chez Dora, il se serait rendu compte que Dora, sur l'axe imaginaire, est identifiée à Monsieur K. Monsieur K, c'est le moi de Dora. Et pour se relationner à Madame K, Dora se sert du moi de Monsieur K, de son identification imaginaire à Monsieur K, pour se relationner à Madame K. C'est sa solution. Sinon, elle ne sait pas se relationner à Madame K. Et quand Monsieur K lui dit « Ma femme n'est rien pour moi », eh bien, il fait sauter la solution de Dora. Et la preuve que c'était la solution de Dora, comme dit Lacan à ce moment-là, la preuve que c'était la solution de Dora, son identification à M. K pour se relationner à Mme K, c'est que, le truc saute une fois qu'il lui a dit « Ma femme n'est rien pour moi ». Et alors, Lacan fait valoir aussi ceci, c'est que tous les symptômes de Dora prenaient sens à partir de cette identification à M. K. Par exemple, son aphonie. Dora était aphone en l'absence de Monsieur K, quand elle était seule avec Madame K, en l'absence de Monsieur K. Alors, dit Lacan, ce n'est pas que alors elle n'avait rien à dire parce que Monsieur K n'était pas là, c'est qu'en l'absence de Monsieur K, le mode d'objectivation qui lui permet de se rapporter à Madame K n'est plus là et il n'est posé nulle part ailleurs. Il revient, c'est-à-dire que l'identification imaginaire de Dora à M. K est une solution, certes instable et névrotique, qui se joue sur l'axe imaginaire, mais une solution nécessaire pour elle se rapporter à l'objet de son désir. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, par rapport au schéma général de cette répartition, c'est que quand sa relation imaginaire saute, que Dora se considère comme le pur objet d'échange et de jouissance entre son père, M. K et Mme K. Parce que ça saute du côté de l'imaginaire, elle est renvoyée du côté de l'objet qui chute. D'accord ? Alors, l'acting out. Lacan dit que l'acting out, c'est l'opposé du passage à l'acte. Là, on n'est pas rejeté du côté de l'objet qui chute, mais au contraire, l'objet petit a monte sur la scène. Alors, prenons le cas de Chris. Le cas du patient de Chris. Chris est un analyste qui a un patient. Alors, j'essayais de voir comment je pouvais dire ça. Enfin, soit, j'ai distingué dans ma tête, c'est pas dans le texte que c'est comme ça, j'ai distingué quatre temps pour parler du patient de Chris. Donc, le patient de Chris, premier temps, raconte à son analyste qu'il est plagiaire. Il a écrit un texte et il pense qu'il a plagié ce qu'il a écrit dans un autre texte. Deuxième temps, son analyste, entendant ça, va vérifier la chose. Page 146-147 du séminaire. Donc, son analyste, entendant ça, va vérifier la chose et il montre à son patient de la façon la plus irréfutable qu'il n'est pas un plagiaire. Il a lu son bouquin, il a été vérifié l'exactitude de la chose. Il a lu son bouquin. Son bouquin est bel et bien original. C'est au contraire les autres qui l'ont copié. Le sujet ne peut pas le contester, mais seulement il s'en fout, dit Lacan. Et en sortant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est le troisième temps. Il va pas manger des cervelles fraîches, c'est ce qui est écrit dans le texte, mais il raconte à son analyste que régulièrement, en sortant d'une séance, il va reluquer le menu du restaurant voisin où il y a des cervelles fraîches à l'affiche. Ça, c'est le moment de l'acting out. Alors, comment dire ça? Alors, dans le premier temps, disons, je distingue trois temps dans ce acting out, le troisième étant vraiment celui de le moment de l'acting out. Dans le premier temps, le patient de crise raconte qu'il est plagié. Au fond, il se sent coupable, il associe, il est dans le registre, au fond, de l'association, son dire est pris dans les raies du signifiant, avec équivoque, malentendu, etc., etc. Il est pris dans une vérité menteuse. Chris, l'analyste, lui, va vérifier dans le deuxième temps l'exactitude des choses. C'est une erreur. On ne doit pas faire ça quand on est analyste. Il va vérifier l'exactitude des choses. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une vérité vraie qu'il devrait communiquer, alors que la vérité n'est que menteuse. Du coup, troisième temps, le patient va reluquer le menu aux cervelles fraîches. Les cervelles fraîches, comme fait valoir Lacan, c'est un bout de chair. Les cervelles fraîches, c'est l'incidence de l'objet oral qui était déjà dans le premier temps où le patient parlait d'être plagiaire, mais qui se trouvait voilé dans le premier temps. Parce que l'objet petit a, l'objet oral, en l'occurrence, cause le sujet lui aussi et sa parole. Mais de manière voilée, tout ça est recouvert par le semblant de la vérité, par la vérité qui a structure de fiction. Donc, dans le premier temps, il en parlait de manière voilée. Chris va vérifier l'exactitude des choses, et ce qui est de l'ordre, et c'est alors que dans l'acting out, au fond, ce qui aurait dû rester voilé réapparaît sur la scène. Il va reluquer les cervelles fraîches. Alors, quand ça réapparaît sur la scène, ça prend à ce moment-là la structure même qui est celle de la scène. C'est-à-dire que ça montre à côté, c'est trompeur. Ça devient trompeur au même titre que la scène. De sa nature, A n'est pas spécularisable. C'est-à-dire que quand on le montre, si on le rend spécularisable, on le fait de façon trompeuse, à côté. Une fois que le petit A monte sur la scène, il est pris dans les tromperies de la monstration, du montrage, comme dit Lacan, c'est-à-dire dans les tromperies de la vérité qui a structure de fiction. Le petit A, le réel, quand on le fait passer au signifiant, on ne rencontre jamais que le mensonge. Bon, donc on a mis l'acting out A et le passage à l'acte là. Alors c'est après ça que Lacan en vient aux symptômes et que je vais bientôt terminer. Alors, est-ce que je suis maintenant? Donc, Ça, c'est à la page, je ne sais plus, 147 en bas. Alors, le symptôme, dit Lacan, c'est pareil que l'acting out. L'acting out, c'est un symptôme. Le symptôme se montre comme autre, lui aussi. La preuve, c'est qu'il doit être interprété. Alors, donc, il met, quand il commence à en parler, le symptôme de ce côté-là. Et effectivement, le symptôme, dans la théorie classique freudienne et dans la théorie classique de Lacan, le symptôme, c'est une substitution signifiante. C'est une métaphore. Il y a un premier signifiant qui est refoulé, auquel vient se substituer un second signifiant. C'est pour cela que ça peut être interprété, le symptôme, parce que ça relève d'une substitution signifiante. Mais, dit Lacan, où est-ce qu'on est là ? Donc, le symptôme se montre comme autre, lui aussi, à côté. On n'a pas directement affaire à la première incidence qui est refoulée. On a affaire qu'à la métaphore. Donc, le symptôme se montre comme autre, lui aussi. La preuve, c'est qu'il doit être interprété. Bon, alors mettons bien les points sur les i, dit-il. Vous savez qu'il ne peut pas l'être interprété directement, le symptôme, qu'il y faut le transfert, c'est-à-dire l'introduction de l'autre. Pour qu'un symptôme puisse être interprété, il faut aller en analyse, s'adresser à quelqu'un, supposer qu'il y a un savoir derrière ce symptôme, qu'il y a du sujet supposé savoir, et aller parler de cela pour voir ce que ça veut dire. Dans ce cas-là, le symptôme se verse au champ de ce qui est l'appel à l'autre, et au sens, et à la signification, et à l'interprétation. Même s'il ne fait pas plaisir, et qu'il produit... qu'il apporte du déplaisir et de la souffrance, le symptôme, on peut très bien ne pas vouloir savoir ce que ça veut dire et au contraire s'en satisfaire. Tout le monde ne va pas parler de ce symptôme en analyse. Et c'est alors de l'autre côté que Lacan, donc du côté de la sane, il place le symptôme dans la mesure où on veut aller en parler et où on fait appel à l'autre et à l'interprétation. Et du côté du monde, au fond, il place le symptôme comme jouissance. Le symptôme, dans sa nature, est jouissance. Il n'est pas appel à l'autre. Il ne devient appel à l'autre que dans la démarche du transfert. Voilà.
Merci beaucoup à Véronique Mariage et Monique Kusnirek. Donc, je vais... essayez de vous adresser une ou deux questions le temps que la salle puisse prendre le temps de formuler les siennes. Pour Véronique Mariage, peut-être deux choses qui me sont venues en vous écoutant. J'ai noté une phrase qui est restée un peu obscure pour moi et donc je me disais que peut-être... vous pourriez l'éclairer un petit peu. Lacan dit que l'angoisse est la seule traduction subjective possible de cet objet petit a. Et vous avez dit le fantasme, via le fantasme, cet objet petit a est support du désir. Est-ce que vous pourriez dire... quelque chose de ça, parce que ça reste pour moi un peu obscur. Et alors, une autre question que je me posais en écoutant déplier le cas de la jeune homosexuelle. Au fond, bon, on voit qu'il y a toute une série de moments qu'elle passe et qui sont décrites presque, j'avais envie de dire, comme des phases développementales. À tel âge, il s'est passé ceci, à tel autre âge, il s'est passé cela. Et puis, à un moment, se passe quelque chose qui fait que ça ne suit plus le schéma classique de l'Œdipe. Et donc, au fond, comment se positionner par rapport à cette approche qui semble très normée, très développementale, et construire à partir de ça, et repris par Lacan, voilà ce que vous avez noté, que Freud pense que ce n'est pas une névrose, mais une psychose. Enfin,
j'ai pas dit ça.
Ah, j'ai mal... je pense que vous l'avez dit.
J'ai pas dit psychose. J'ai dit ce que Freud dit, qu'il ne trouve pas la névrose.
Ah, voilà. Enfin, comment est-ce qu'on peut articuler cette approche qui semble très phasée par rapport à nos repères? Enfin, voilà. Alors, pour Monique Kusnirek, à partir de la question de l'acting out, et à partir du moment où, comme vous venez de l'expliquer, cet objet A revient sur la scène, il est tromperie parce qu'il prend la structure de cette scène. Mais je me disais, en même temps, c'est paradoxal, parce que de la même, il prend la structure de cette scène, mais en même temps, ça dit quelque chose de l'objet A. Donc, comment... ça dit à côté, mais ça dit l'objet.
Justement, on ne sait pas le dire, on ne sait... Il faut comprendre que Lacan fait de l'objet petit a un réel. Et on ne peut rien dire du réel. Dès lors qu'on commence à dire ce que c'est, ça échappe.
Ça ?
Échappe. Ça trompe. C'est pas ça. C'est jamais ça ce qu'on dit du réel.
Oui, moi je... Enfin, je trouve que c'est très important tout ce que le développement de Monique, parce que ça permet de situer justement chez la jeune homosexuelle le passage à l'acte, hein, donc qui est du côté effectivement de l'identification à l'objet qui chute. Alors, une autre question, c'est que la phase qui est avant, c'est-à-dire toute la mascarade de la jeune homosexuelle avec la dame, est-ce que on peut la mettre du côté de l'acting out? Alors c'est une question qu'a Lacan dans le chapitre que toi tu avais dû, que tu as abordé, et je me dis alors là par rapport justement où tu as donné l'exemple de Chris et des cervelles fraîches qui viennent sur la scène. Sur la scène, du côté de la scène, dans l'imaginaire, et qui se positive sur la scène. Si je dis se positive, enfin ça reprend ce que Miller en développe dans son cours. C'est-à-dire que lui, il met l'acting out du côté du petit A qui vient sur la scène en plus, en trop. Tandis que dans le passage à l'acte, le sujet s'identifie au petit a moins a. Et donc il fait un petit schéma, on pourrait rajouter, tu vois, du côté donc de la scène plus a, du côté de l'antigoïte, et du côté du passage à l'acte moins a. Alors donc du coup, enfin on peut se dire que quand même, le plus a de l'antigoïte de la jeune homosexuelle, est-ce que c'est dans le... c'est une question, hein. Est-ce que c'est l'enfant qu'elle n'a pas eu, qu'elle n'a pas pu avoir, du père? C'est comme ça que je l'entends dans l'articulation. Et quand ça est... et donc avec tout le montage qu'elle a mis en place à cause de ça, avec son homosexualité auprès de la dame. Moi, j'ai un peu de mal... Et Et donc voilà, donc là on a le plus un sur le sur la scène. Et au moment où le père dévoile ça et que la dame dit eh bien notre relation c'est fini, tout ça chute et ce petit as négatif, elle tombe. Elle le réalise. Elle réalise l'enfant, l'enfant tombé, l'enfant né, l'enfant. Oui, l'enfant qui naît. Le laisser tomber de l'enfant qui naît. Voilà, moi je l'articule comme ça. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que dans le schéma, quand tu le mets du côté du monde, du réel, tout d'un coup. Le petit tas, c'est quand même du réel qui vient du côté dans le symbolique et l'imaginaire. Du côté symbolique et imaginaire dans le schéma. Mmh. Dans l'acting out. Et donc, c'est pour ça que quelque chose est interprétable. C'est-à-dire qu'il peut se cerner mais qu'il peut se montrer cet objet.
Oui. On pourrait dire d'autres choses encore, et on peut dire d'autres choses encore, qu'au fond, la jeune homosexuelle fait tout un spectacle.
Ben oui.
Elle montre quelque chose à son père, et que c'est dans cette monstration à son père que se situe l'ensemble acting out. Moi, j'avais pris Chris parce que Chris, on a vraiment un moment acting out. Le moment où il va reluquer le menu, là. Ici, c'est toute une monstration à son père qui prend un certain temps avant de chuter. Et ce qu'elle montre aussi à son père, c'est comment on traite une femme.
Bien sûr.
Parce qu'il ne sait pas y faire avec les femmes, son père. Et l'objet de la jeune homosexuelle, c'est peut-être bien l'enfant, mais c'est aussi la femme.
La femme, oui.
Et quand la femme lui dit « va te faire foutre », c'est assez dur. Hein.
C'est bien peut-être pour ça qu'il n'y a pas tellement de... le côté pas très névo... pas de structure hystérique du côté de la jeune homosexuelle. C'est quelque chose de très égaré chez elle qui est de situer vraiment côté femme. Même côté vraie femme. C'est quand même, parler des tours de la castration, de l'Oedipe, etc., c'est pour elle absolument... là, pour elle, c'est la mort de la femme. C'est même pour ça qu'il y a cette espèce de transfert sauvage vers la femme, mais affirmé de façon absolument sauvage, c'est-à-dire hors système, hors du système même, hors du menu déroulé qu'est l'Oedipe. Hein, d'ailleurs, l'un des concepts fondamentaux de cette affaire de la jeune homosexuelle, c'est la déception. Elle est déçue par le. Elle est vraiment. C'est un thème que Lacan reprend. Hein. Ce côté, c'est un moment, il dit, qu'on situe toujours dans l'homosexualité féminine, c'est un moment de déception radicale. De déception radicale quant au faible moyen de l'homme pour ce qui est d'affirmer, de faire exister la femme.
Ce qui est surprenant, c'est que Freud s'y laisse prendre comme de ça. C'est pour ça qu'il fait... Pour lui, il est dans ses théories...
comme toujours.
Où on doit trouver, dans le développement libidinal du sujet, toute une série d'éléments
Freud,
qui doivent se travailler,
etc.
Et elle...
Freud cherche la vérité.
Voilà.
Et à la fin du chapitre 9, là, il dit ça, que Freud cherche la vérité, c'est sa passion. Et qu'il ne supporte pas que la vérité soit trompeuse.
Voilà.
Qu'il veut la vérité vraie.
Oui, il veut tout de la femme.
Il veut tout de la femme. Il veut la vérité vraie, alors que, au fond, c'est sa passion trompeuse à Freud. Parce que quand on est analyste, il faut, on voit bien avec l'exemple de Chris, il faut, au fond, prendre une certaine mesure que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain et sera encore différente de celle qu'il y a dans un mois pour ne pas faire avouer au sujet quelle serait la vérité dernière. Il faut pouvoir passer d'une vérité à une autre et à encore une autre pour finalement épuiser le registre de la vérité et du sens et toucher quelque chose d'autre. Il ne faut pas s'arrêter à la vérité qu'on obtiendrait au bout d'un certain moment et sur laquelle on pourrait s'arrêter. Il faut qu'elle s'épuise, là.
Bon, ça, Freud n'aime pas, mais ça dit, il semble aussi que la femme homosexuelle était particulièrement insupportable. La biographie dit ça. Enfin, il semble que elle est en analyse vraiment en marche arrière. Et elle était reculant et manifestement, il y avait une animosité. Mais dès le début, semble-t-il.
Oui, enfin, mais...
Elle l'a quand dit à la fin, Freud, quoi, ça, là...
où elle était docile aussi. Une certaine forme de docilité ou voilà. comme de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard.
Enfin, c'est saisissant, c'est que Freud, en même temps, est très lucide. Il n'y croit pas, etc. Et il n'y a rien à reprendre à ça. Et à la fin, pourtant, il passe à l'acte. Il a quand il ne supporte pas ses mensonges. Alors que pourtant, il a repéré ça depuis le début, mais il n'en a pas tiré les conclusions. Alors, sur le symptôme, j'avais une question. Une petite... Oh là là.
C'est
vraiment amusant.
C'est le mien.
Dans ce passage, page 148, Lacan a une façon, quand même, je trouve. Il dit le symptôme dans sa nature est jouissance. Alors, c'est vrai que la phrase, on l'avait arrêtée là. Et c'est bien ce qu'il dit après la virgule. Ne l'oubliez pas. Jouissance fourrée, sans doute, etc. Mais ce ne l'oubliez pas est étonnant. C'est vraiment le style de Lacan, parce que jusque-là, comme tu l'as dit, là, Monique, le Lacan classique avait toujours mis le symptôme. Absolument. Alors, le ne l'oubliez pas, comment voulez-vous que les gens à l'époque pouvaient comprendre Lacan? Parce que ne l'oubliez pas, mais il ne l'avait jamais dit. Il ne l'avait jamais dit, c'est la première fois qu'il le dit. À peu près. Parce que c'est ça qui était, moi, c'est ça qui m'avait intéressé dans cette phrase. C'est une incise, dit Monique, mais Miller l'a quand même mise en exergue de son chapitre. Et moi, c'est ça qui m'avait intéressé. Déjà même, je me rappelle dans la lecture de la transcription, avant qu'on ait le séminaire, c'est que c'est une... Ce séminaire fait c'est une rupture. Enfin, c'est un séminaire qui se décale du Lacan classique. Il est juste avant le livre 11. Et le ne l'oubliez pas vraiment en un mot, il ne l'a jamais dit. Alors on voit que la Millet a raison. C'est le ne l'oubliez pas. Et là, il s'adresse à lui-même.
Oui, c'est aussi la référence quand même au travail de Freud.
Voilà. Exactement. Oui, ça c'est vrai, cette réponse. Mais alors que pourtant, lui, il l'avait oublié.
Moi, ce qui m'a frappé dans la phrase, en fait, je ne comprends pas. C'est donc, le symptôme n'est pas appel à l'autre. Le symptôme dans sa nature est jouissance, ne l'oubliez pas, virgule, jouissance fourrée sans doute. C'est quoi ça?
Jouissance fourrée sans doute.
Ah, ça veut dire caché. D'accord. J'aurais dû aller voir au dictionnaire. D'accord.
Jouissance fourrée ou c'est
dans les fourrés.
Elle est cachée dans la souffrance.
Cachée dans les fourrés.
Voilà.
C'est quand même bizarre. Comme...
C'est un terme un peu gothique.
D'accord. Je ne connaissais pas.
À coup fourré. Au sens du coup fourré.
Je vais vérifier dans le dictionnaire. Oui, d'accord.
J'ai une petite question. Lacan dit une petite phrase en rapport avec le passage à l'acte où il parle de la femme phallique qui laisse tomber l'enfant. Et je trouve ça un peu... Enfin, vous pourriez commenter parce que ce n'est pas très clair pour moi. C'est dans ces passages-là, quand il parle du passage à l'acte, il dit, n'oubliez pas que la femme phallique, c'est celle qui fait tomber l'enfant et que... Enfin, quelque chose comme ça, quoi.
Oui, c'est pour ça que les femmes absolues, c'est dangereux.
Voilà. Parce que l'enfant ne peut pas prendre la place d'être le phallus de la mère. Puisqu'elle l'est, elle ne peut pas l'avoir. C'est comme ça que c'est développé dans le chapitre.
Ça peut bien, à mon avis, s'expliquer facilement. Il suffit d'exil ou un fil.
Oui.
C'est-à-dire que le fil va toujours avec le moins, là, avant sans l'autre. Et dès lors que vous séparez le moins du fil, si j'ose dire, eh bien, vous le chassez par la porte, il va vous retomber dessus par la fenêtre. Et c'est dangereux de prendre un coup de moins en pleine figure. Parce que le phallus, dans l'enseignement de Lacan, c'est le signifiant castre. Le signifiant apporte un moins. dès lors que et le phallus, c'est le signifiant de ce moins. Lacan dit comme ça, c'est le signifiant de l'impact du signifiant sur le vivant. Et donc,
celui qui cache le pied.
Et l'érection phallique, par exemple, c'est très sympathique, ça paraît un plus. Enfin, on sait très bien que pour le coup, ça cache un moins. Hein? En général, c'est plutôt un moins. En plus, c'est par certains. C'est plutôt par des moments, c'est pas un état. L'état, c'est plutôt au moins. Et dès qu'on fait un peu trop. Mauvais jeu de mots, mais un peu d'érection, trop d'érection, c'est dangereux. C'est la même chose. Lacan vous dit ça, il dit que la propre du phallus, c'est d'être en moins. Et dès lors que vous n'êtes pas honnête avec ce moins, dès lors que vous faites un peu bon marché de ce moins, mais c'est le moins qui va s'insurger, hein, et vous tombez dessus. D'une certaine façon, je comprends ça comme ça. Il faudrait reprendre le passage dans le texte, peut-être.
Bon, eh bien, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. On se revoit fin janvier. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Merci beaucoup aux conférencières. Et le 7 janvier.